Nous nous retrouvons donc avec
Emmanuel Rengouat
et Pierre-Olivier Gomain.
Ma première question, ça va être tout simplement si vous pouvez vous présenter rapidement, parler un peu de votre parcours, qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement?
Alors moi, donc, je suis Emmanuel, je suis politiste, donc je suis maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Et je bosse, donc c'est beaucoup de sociaux, la Sciences Po. Et je bosse notamment sur les luttes sociales, les mouvements contestataires, etc. Et j'ai beaucoup travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est dans le cadre d'un projet de recherche que j'ai rencontré Pierre-Olivier. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose qui sorte des amphis. Donc on a fait un film.
Et moi, mon parcours, il est pas du tout celui de la recherche, mais plutôt celui du cinéma. En fait, j'ai fait des études audiovisuelles et ça fait à peu près 15 ans que je fais des images et des sons avec les chercheurs et les chercheuses. Et donc, on s'est rencontré avec Emmanuel au sein de la Maison des sciences et des humanités à Montpellier, qui est
D'accord.
un lieu en fait qui héberge des projets de recherche. Et moi, mon métier, c'est d'en faire des films, de les rendre accessibles et de les rendre visibles et lisibles pour le public.
On va revenir un peu sur votre collaboration entre vous. Donc là, on était pour la projection du film Des goûts de lutte. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu du film rapidement, pas trop spoiler, mais donner un petit speech de quoi ça parle très, très largement.
Alors le pitch, c'est qu'est-ce qui se passe après une lutte? On n'est pas dans le moment même de la lutte, mais on s'est dit, ok, la lutte, c'est un moment très fort, mais qu'est-ce qui reste après pour les gens? Et donc le pitch du film, c'est qu'on va suivre des trajectoires de plusieurs personnages dans les années qui suivent la lutte des Gilets jaunes, mais ça parle au-delà des Gilets jaunes de ce qui se passe en général après un mouvement social. Et donc pareil, sans spoiler, pardon, on se demande s'il reste ou pas le goût de la lutte et pour qui.
Si vous pouvez rajouter quelque chose.
Bah, en fait, je peux rajouter qu'on a donc fait ce film après le début du mouvement, après 2018. Donc on a filmé pendant 3 ans, ce qui est un temps long par rapport au temps des médias, tu vois. Donc on a essayé de suivre des personnages. Il y en a une petite dizaine dans le film. Au cours de ces 3 années, en fait, qui ont suivi le mouvement, c'est-à-dire comment ils ont évolué. Alors on ne vous dit pas comment, il y a des différents parcours, mais en fonction de leur âge, en fonction de leur métier, en fonction de ce qui s'est passé pour le moment, comment ils ont évolué et ce qu'ils sont devenus. On pourrait faire un dégoût de lutte 2, par exemple, aujourd'hui, en 2026.
Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a touché en faisant ce sujet? Qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de le faire? Qui veut commencer?
Allez, j'y vais. Ouais, c'est une super question parce que c'est par là que c'est passé l'envie de faire un film. C'est aussi parce que moi, ça m'a touché. C'est passé par les émotions, ce qui n'est pas un truc qui arrive tous les jours quand on fait de la recherche. Bah, en fait, je suis allée dans le cadre de cette enquête-là. Avant que ça devienne un film, c'était une enquête de sociaux. Donc, je suis beaucoup allée sur les ronds-points. J'ai passé beaucoup de temps dans les moments d'occupation, beaucoup de temps dans les manifs. Donc, à un moment donné, on rencontre les gens. En plus, moi, j'ai fait une enquête qualitative par récit de vie. L'idée, c'était de comprendre comment l'engagement, il va s'inscrire dans une trajectoire de vie. Et c'est des gens qui avaient souvent 40, 50, 60 ans, donc ça prend du temps de raconter sa vie. Donc j'ai fait des entretiens dans leur cuisine de 2 heures, 3 heures répétées. Donc au bout d'un moment, il y a quand même un rapport de confiance et de connaissance fort qui s'engage quoi avec les gens. Et c'est aussi c'est ce qu'on raconte dans les projections débats. On raconte que pour les gens qui ont participé, cette lutte, c'était hyper intense. C'est un moment de vie très intense. Et quand on assiste à ça et qu'on y participe un peu, bah, ça produit en fait aussi des effets sur nous. Et donc pour répondre plus directement à la question, moi c'est aussi parce qu'il y a des gens qui m'ont touchée, il y a des gens avec qui je me suis bien entendue, il y a des gens qui je me suis, il y a des gens qui étaient très, avec qui j'étais très opposée politiquement, mais avec qui j'ai pu échanger. Donc quand on échange, bah, il y a quand même de l'empathie, donc on comprend aussi comment ça fonctionne un vote RN, par exemple, pour dire les choses clairement. Donc voilà, c'est les rencontres que j'ai faites avec les gens qui m'ont donné envie aussi de passer par un médium qui n'est pas le bouquin, qui n'est pas la conférence, passer par un médium qui va permettre de transmettre un peu cette sensibilité. C'est parce que je les ai vus, j'ai entendu le grain de leur voix, voilà, il y a le rapport au monde, le milieu social, ça parle aussi par les corps. Donc il y avait l'envie de passer par le sensible pour dire quelque chose de la politique.
C'est cette enquête qui vous a vraiment donné envie ensuite de poursuivre cette recherche, c'est ça?
Bah, c'est cette enquête-là qui m'a donné envie de passer par le film
D'accord, oui.
pour dire les choses, pour dire ce que je voyais dans cette enquête.
Et vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a réellement touché sur ce sujet?
Bah, moi, de mon côté, donc en novembre 2018, je venais d'avoir un petit enfant, un petit garçon. Et en bon père de famille, j'étais un peu coincé chez moi pour des questions logistiques. Et donc, je suis passé complètement à côté de la première année du mouvement. Et comme dit Emmanuel, bah, en fait, quand tu fais un film, c'est comme répondre à un manque. Et moi, les films, j'aime bien les faire pour essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Donc, en fait, pour moi, faire un film avec Emmanuel, en plus, c'était l'occasion de revenir sur cette page que j'avais loupée, que j'avais complètement loupée, en fait. Tu vois. Et après, j'y suis revenu en prenant les photos, etc. Mais j'avais pas vraiment voilà, pris la mesure de ce mouvement-là. Donc, revenir avec Emmanuel et rencontrer ces gens que j'ai aussi, moi, trouvé touchants, avec lesquels on a tissé, en fait, des liens au cours de ces 3 ans de tournage, bah, c'était l'occasion, très égoïstement, de comprendre et puis peut-être un peu plus... largement de faire comprendre en fait ce qui s'était passé et de proposer un récit une fois de plus avec ce film, une de les faire rentrer dans l'histoire quoi avec le film hein, très humblement.
Cette histoire, c'est une forme de documentaire, si je puis dire. Est-ce que comment est-ce que vous organisez un film comme ça? J'imagine que c'est un truc qui prend du temps, parce que vous avez dit que c'était sur 3 années, c'est ça? Comment est-ce que vous organisez ce film, et comment est-ce que vous collaborez entre vous pour faire en sorte que vous puissiez avoir un maximum d'images et de matière, quoi?
Ouais, on est un peu des ovnis de la production audiovisuelle. Alors,
D'accord.
la forme documentaire, c'est effectivement celle qui est la plus proche de ce qu'on a fait là. Un film que l'on tourne sur 3 ans et que l'on pose, enfin, et la post-prod, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait après, c'est fait un peu pendant le tournage et puis pendant l'année qui a suivi la fin du tournage. Donc, en fait,
OK.
c'est quelque chose qui est très dur à financer parce que ça dure très longtemps. La chance, nous, qu'on a eue, c'est qu'on est en fait en poste. C'est-à-dire que moi, mon employeur, c'est le CNRS. Emmanuel, elle travaille en tant que
À
prof à la
l'université.
fac, c'est l'université. Donc, en fait, on pouvait. Alors, c'était un plus et un moins. On pouvait continuer à faire le film pendant 3 ans parce que finalement, il y avait des trous et des. On n'a pas tourné pendant 3 ans, on a tourné sur 3 années. Donc, on pouvait, si on était très réactif, tourner un samedi, un mardi, un vendredi soir. Il y avait une AG, il y avait un rond-point. Hein, et on était, entre guillemets, très pragmatiquement payé par nos institutions. Après, c'est très dur à financer parce que c'est un film et des sessions de tournage qu'on a fait un peu à la demande. C'est-à-dire que bah, le groupe des Gilets jaunes qu'on suivait était très peu prévisible. Donc, en fait, il se passait un truc le soir, il fallait y aller. Il se passait un truc le samedi. On a commencé à tourner l'anniversaire, par exemple, des 3 ans du mouvement. On s'est dit, bon, bah, on y va. C'était la journée. C'était même une partie de la nuit. Donc, voilà, on a commencé à tourner comme ça. On a accumulé, en fait, le tournage. Et en même temps qu'on tournait, pour répondre à ta question, on dérushait, c'est-à-dire qu'on mettait les bouts d'images et les bouts de son en se disant, bon, bah là, on a des images pour tel personnage, là, on en a pour tel personnage, sur tel lieu, sur un autre lieu, etc. Et on a construit le film comme ça, en se retrouvant un moment à la décision d'arrêter de tourner. Alors, c'est une bonne question de pourquoi on a arrêté de tourner. Question que tu n'as pas posée, mais auquel je vais répondre. Parce qu'il a fallu se donner un
Une
temps,
limite.
une limite. Ça faisait déjà 3 ans qu'on tournait. Et c'était, comme on disait tout à l'heure pendant le débat, c'était les mouvements de grève contre la réforme des retraites. Et donc, c'était une sorte de mouvement social, en fait, qui se passait dans la rue, dans lequel nos protagonistes du film occupaient une place, comme parmi tous les manifestants. Mais ils avaient leur place dans le cortège en tant que gilets jaunes. Et voilà, on se disait que c'était aussi une manière potentielle de terminer le film, en tout cas d'avoir quelque chose sur lequel on pouvait se raccrocher avec le temps qui avait passé. On était alors en 2000, donc
3.
23. Donc tu vois, il s'était passé ce temps-là et on s'est dit on arrête de tourner. Et puis après, on était bien embêtés quand même tous les deux d'être responsables de ces rushs. Donc on a fait appel à un monteur qui est venu au global 4 semaines. Qui lui avait un regard complètement neuf et qui nous a aidés sur la base de ce dérochage, hein, donc de ce tri déjà qu'on avait fait des persos, qui nous a aidés à construire l'histoire pour de vrai, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'histoire qui est aujourd'hui celle du film.
J'ai une autre petite question. Pourquoi ces personnages-là en particulier? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces personnes et pas d'autres? Parce que évidemment, il y a une stratégie de ciblage de gens, parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde, c'est évident. Pourquoi ces personnes-là en particulier?
Alors, on les a choisis ouais, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la plupart des personnages qu'on a, c'est des gens que j'avais rencontrés en enquête. Donc, voilà, des
D'accord.
gens chez qui je suis allée, voilà, dans la cuisine typiquement, donc que je connaissais, pour qui j'avais déjà recueilli leur récit de vie. Et finalement, c'est rigolo, mais cette enquête sociologique, elle a servi de repérage. Dans un film, avant de commencer à tourner, ben, on va faire les repérages, on va repérer des lieux, on va repérer des gens, on va repérer des personnages, des bons clients. Voilà, on va choisir les gens selon la manière dont ils sont disponibles, qui s'expriment, etc. Et donc, du coup, quelque part, nous, ce travail-là était déjà fait. Et surtout, ce qui était fort, bah, c'est le lien de confiance dont je parlais tout à l'heure. Les gens, ils m'avaient déjà livré leur récit. Donc voilà, on a amené la caméra. Pierre-Olivier, il est arrivé progressivement. On n'est pas venu tout de suite avec la caméra, parce qu'on avait un peu peur de l'effet que ça allait produire. Mais donc, ça a permis de savoir aussi, de construire un paysage de personnages qu'on a voulu. On n'a pas fait un film où en se focalisant très précisément sur l'histoire d'une ou deux personnes. On a voulu faire un film choral. Donc l'idée d'un film choral, c'est qu'on a plein de personnages qui vont permettre de créer un récit collectif sur ce mouvement-là. Donc ça veut dire qu'on a des nuances. Ils n'ont pas tous le même vécu du mouvement. Ils ne vont pas tous garder le même goût de la lutte. Ça ne va pas produire les mêmes effets chez tous. Il y en a chez qui c'est des effets d'engagement politique, il y en a chez qui c'est des effets sur rapport au travail, il y en a chez qui c'est, voilà, c'est différent. Mais ça crée quand même un film choral qui nous parle de ce que ça fait en général cette lutte aux gens. Et donc on a choisi les personnages comme ça, parce qu'on les connaissait, qu'on trouvait leur trajectoire intéressante et que ça permettait d'avoir un nuancier, on va dire. Mmh. Et presque tous les personnages ont été choisis comme ça, sauf une qui est l'autrice de BD. Il y a un des personnages qui a écrit une BD sur le film. Et elle, c'est marrant, on l'a rencontrée, on l'a pas rencontrée, j'ai fait une émission de radio avec elle sur RFI, et elle racontait des choses qui étaient très proches de ce que nous, on était en train d'écrire, notamment cette idée que le mouvement, il avait produit des révolutions intérieures. Elle parlait de révolution intérieure, cette idée que le mouvement, il a transformé les gens dans leur manière de voir le monde, parce qu'elle, sa BD, elle a fait un peu comme nous, elle a recueilli des témoignages qu'elle a mis en scène. Et elle est super, donc sa BD, ça s'appelle « Mon rond-point dans ta gueule », et elle est très chouette. Et donc, du coup, elle, je l'ai contactée et on est allé la voir exprès. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est...
D'accord.
Un chouette personnage.
Et est-ce que vous avez encore... Vous entretenez encore des liens avec ces gens-là ou est-ce que ça s'est arrêté après le tournage?
Ben, on les a vus beaucoup pendant le tournage. On les a vus après dans les manifs, souvent. Voilà, dans la manif contre la réforme des retraites, quand il y a des événements. Et pour une partie d'entre eux, ceux qu'on a suivis, ils sont restés sur le rond-point plusieurs années encore après le film. Donc,
ok.
Jusqu'à 7 ans après le mouvement, ce qui est assez dingue, hein, ils ont continué à être sur le rond-point. Donc c'est là qu'on les croisait. Il y avait aussi un truc très mémoriel, ils fêtaient l'anniversaire tous les ans, le 17 novembre. Donc tout le 17 novembre, bah, on y allait aussi avec eux. Et puis il y a eu des moments chouettes, il y a eu un moment où on leur a montré le film. Le moment où on a montré le film en public à Montpellier, dans le cinéma, ils étaient là. Donc ça, c'était des moments forts aussi.
Ils ont apprécié ?
Ouais.
Ouais.
En fait, c'était notre premier public, on les a...
Okay.
On a fait deux visionnages avec eux. Eux, c'est les personnages du film. Hein. Donc, les filles, le rond-point de Prédérène. Et Sandrine, en fait, la seule personne qui n'était pas là en présence, c'est Sandrine, mais avec qui on avait partagé un lien, qui nous avait fait un mail comme
c'est
ça, l'autrice de BD, Sandrine Carillon, qui nous avait fait un mail de retour, etc. Et donc, ouais, ils ont apprécié. Je pense qu'ils ont apprécié. Alors après, il y avait un panel de retours, parce qu'ils sont évidemment tous différents. Donc ça allait du « ce film n'est pas assez militant » à « c'est génial, qu'est-ce qu'on parle bien ?» et voilà. En tout cas, il y avait un panel de retours qui était assez intéressant et voilà, toujours positif quant à l'existence de ce film-là, en tout cas, évidemment. Et donc, c'est ce qui nous a permis, avec leur aval, d'aller le montrer aussi plus largement ailleurs et de le partager, en fait.
J'ai une petite remarque à faire sur le film. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait des tranches de vie des personnages. Je pense notamment au passage sur les élections. Ça permet aussi un peu de s'identifier parce qu'on est sur quelque chose de très presque quotidien, si j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment volontaire de votre part de pouvoir filmer ces tranches de vie-là où vous voulez créer un montage plus dynamique et comment ça s'est fonctionné? Comment ça a fonctionné, ce passage-là?
Ben, en fait, cette séquence-là dont tu parles, c'est effectivement... une séquence qui est centrale, pas sociologiquement ou politiquement, mais qui est centrale dans la narration du film. En fait, c'était donc c'est en 2022, c'est le moment où se passe l'élection présidentielle. Et donc, quelques années après la création du mouvement, bah, en fait, ils sont tous à se demander qu'est-ce qu'on va voter, comme toi, comme moi, comme n'importe quel. Et surtout à ce prime time qu'est l'élection présidentielle. Bah, qu'est-ce qui va se passer, Mélenchon ou Macron, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes. Et là, ce qui était intéressant, c'est que revenaient aussi les vieux démons de chacun, parce qu'en fait, ça reste quand même des anciens qui, sur l'élection présidentielle en plus, mais un peu comme chacun de nous, projette quand même quelque chose d'assez, je ne sais pas comment dire, d'assez médiatique et puis d'assez déterminant en tout cas, en disant ah, c'est quand même
Ouais.
le ou la présidente de la France. Et nous, à vrai dire, on voulait vivre ce moment-là avec eux justement pour un peu voir les élections. En fait, on voulait les voir voter, ce qu'on a fait. Il y a des images dans les bureaux de
Oui.
vote. Et on a fait cette soirée, alors qu'on a semi-provoqué, en tout cas cette soirée électorale, où on voulait qu'ils soient tous réunis dans la même salle, justement parce qu'ils sont aussi tous différents, et savoir un peu comment ça allait se passer entre Adrien, ancien électeur RN, les autres qui avaient tracté pour Mélenchon, voilà, comment ça allait se passer ce résultat. Et ça nous a donné une séance, on va dire, de cinéma direct, c'est-à-dire qu'on a laissé vivre le moment qu'on a essayé de capter. Comme ça, au bon vouloir de ce que nous donnaient les gens, et vu qu'on avait aussi leur confiance, et qu'on n'était pas là pour trahir ou pour être l'œil de Judas dans cette maison, en fait, on a vécu le moment avec eux aussi, quoi, parce que nous aussi,
Ouais.
on vivait quelque part au moment, même si on était soustrait
J'ai une petite
part.
question sur la technique aussi, parce que j'ai remarqué dès le début du film, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a eu une petite présence de l'eau et du courant. Est-ce que vous pouvez m'en parler rapidement de cette présence, parce que j'ai pas tout de suite compris. Puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai compris que ça faisait un petit peu partie du film. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus?
Ouais, bah l'eau, c'était c'était presque un personnage du film. En tout cas, c'était une
D'accord.
modalité de narration, clairement. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, la place qu'on lui donnait. Et ça a été important parce que c'est quand même un film. Donc, il y a cette séquence-là dont on parle, le cinéma direct, où on suit les personnages. Et pour ajouter un truc sur la question de tout à l'heure, c'était un enjeu pour nous de créer de l'identification. Tu as dit ça, on s'identifie au personnage, ça crée de l'empathie. Et pour nous, c'était un gros enjeu parce que il y a beaucoup de gens dans notre public, dans les cinémas, c'est pas des gilets jaunes qui viennent nous voir.
Ouais.
C'est plutôt des gens qui vont dans les salles de cinéma, qui aiment les docus, ou des gens qui vont s'intéresser au mouvement politique, ou des étudiants. Mais très peu de gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils fréquentent pas trop les cinoches, si je fais un peu des grosses catégories. Et tout à l'heure, il y a eu une remarque qui était super dans le débat. Il y a quelqu'un qui a dit, bah, moi, je suis en gros un intello de gauche. Mais je
Ouais,
me suis dit que j'ai raté quelque chose, en fait. Je me suis reconnue dans des choses. Et ça, pour nous, c'est hyper intéressant parce que l'idée, c'était justement de pouvoir créer des formes d'identification. De, bah ouais, en fait, moi aussi, quand j'ai fait des luttes sociales, j'ai vécu ça affectivement. Je me suis politisée, j'ai compris des trucs. Et donc, en fait, de créer des rapprochements dans les gens qui ne sont pas dans les mêmes milieux, quoi. Et ça, on l'a construit avec des dispositifs narratifs et puis en construisant les persos. Et pour revenir à la rivière. La rivière, elle permet aussi de s'adresser à des publics très différents, de ne pas s'adresser qu'à des publics à qui on va parler, enfin, à qui on va dire des choses en parlant, en explicitant avec la parole. Là, on utilise une métaphore qui va permettre de dire des choses, qui va permettre de dire, bah, la lutte, c'est de l'irrigation de pensée qui va s'écouler des uns aux autres. C'est aussi des trajectoires individuelles, des petits ruisseaux qui vont faire des grandes rivières. Bah, voilà, c'est des trajectoires individuelles qui vont faire des grosses manifs. Ou c'est des petits ruisseaux qui vont alimenter des plus grands fleuves. C'est des trajectoires individuelles, oui, les effets, ils sont sur des trajectoires biographiques, mais c'est sur tout un ensemble de gens, c'est des millions de personnes qui ont participé. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est pas du tout un outil qu'on manipule quand on est chercheuse. Quand on est chercheuse, on fait des articles, donc on est très explicite,
Ouais.
très exhaustif, on dit les choses au maximum avec des mots, avec des concepts, quoi. Et là, l'idée, c'était de passer par le film pour recourir au sensible et pour faire passer. Faire comprendre sans dire. Et la rivière, elle permet ça.
Et c'est aussi une métaphore qui permet de dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Oui.
Et anecdote, c'est que Sandrine Carillon nous a soufflé un titre, mais on avait
C'est vrai.
déjà choisi notre Dégoût de lutte, l'autrice de BD qui est donc dans notre film, qui était un super pilier pour notre film. Elle nous a glissé qu'on aurait pu appeler le film Des gouttes de lutte. Parce
Ah
que
oui.
l'eau, elle a différents
Ok.
états et elle peut être gazeuse, elle peut être liquide,
C'est vrai
elle
que
peut
ça aurait
être en
été aussi.
torrent.
Ouais. Mais c'était encore plus dur à prononcer.
Mais voilà, des gouttes de lutte.
Je vais avoir une dernière question, peut-être un peu plus compliquée. Selon vous, est-ce qu'on peut quantifier la réussite d'une lutte? En tout cas, je parle pas forcément de celle-là, mais c'est un truc qui revient souvent dans votre
Grave.
film. J'ai l'impression que beaucoup de gens se posent la question, quand est-ce que ça va s'arrêter, pardon? Il y a notamment eu un petit passage un peu touchant. Est-ce que vous auriez la réponse, vous, à cette petite question-là ou pas? Elle est un peu dure,
Voilà, tu nous prends à notre propre jeu parce
mais.
que souvent on finit les projets en disant bah voilà, on vous laisse avec la question de qu'est-ce que c'est une lutte
Ah, pardon.
réussie, quand est-ce qu'elle se termine. Non, mais super, On peut essayer d'y répondre.
Ouais.
Vas-y, vas-y.
Bah, moi, je pense qu'une partie est dans le titre. En fait, j'y reviens. On a appelé le film « Des goûts de lutte » et pas « Des gouttes ». Pour dire aussi que bah, après avoir ou après être passé par ces moments très intenses de lutte, comme quand tu goûtes quelque chose, il reste des goûts parfois mélangés, parfois extrêmes, parfois désagréables et parfois très agréables. Mais en tout cas, il te reste un panel de goûts. Et ce qu'on voulait entendre derrière notre titre, des goûts de lutte, c'était que justement, il y a une nuance derrière qui permet pas forcément de dire que la lutte est foncièrement réussie. En tout cas, elle l'est dans certaines dimensions, peut-être pas dans d'autres. Et pas foncièrement loupée. Parce qu'en fait, on voit bien que les gens qui ont traversé cette lutte et qui en ont été les acteurs en sortent changés. Alors, ouais. Justement, changer avec un goût amer à certains moments de leur vie ou avec un goût très sucré avec l'envie d'y revenir. Mais en tout cas, il y a... Et des fois, c'est les mêmes personnes qui traversent ces deux phases de vie. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a un panel et qu'on a essayé de jouer dans le film, c'est-à-dire la nuance, c'est pas on a gagné, ouais. On a perdu.
Et dans le film, il y a une de nos gilets jaunes qui dit une phrase que moi j'aime bien, elle dit « Mais en fait, on est et on restera gilet jaune peut-être toute notre vie ». Et d'accord. C'est vraiment un truc comme ça qu'on avait envie de montrer. Et d'ailleurs, ça fait écho. Il y a un chercheur connu en Sciences Po qui s'appelle Doug McAdam, qui a bossé sur le mouvement civil des Nord-Américains, et qui dit, mais en fait, les mouvements sociaux, ils meurent que pour les médias. Pour les médias, ils meurent quand il n'y a plus de moments
de quand il y a autre chose à dire.
Ouais, c'est ouais. Ça. Mais en fait, pour les gens, parfois, ça peut durer toute la vie, parce que ça a été une expérience personnelle, biographique, hyper intense. Et c'est pareil pour mai 68. Il y a quelques années, c'était l'anniversaire de mai 68. Et beaucoup de publications qui sont sorties et beaucoup de collègues qui sont allés chercher bah, qu'est-ce qu'il en reste pour les gens qui l'ont fait. Et en fait, on voit que bah, 50 ans après, en fait, pour les gens qui étaient très engagés, ça a pu créer des bifurcations de vie. Il y a des gens qui se sont politisés dans des partis, des gens qui se sont engagés sur des questions féministes. Ouais. Mais bon, ce n'est pas des choses que les médias voient parce que c'est dur à capter, en fait. Et c'est ça qui nous intéressait, nous aussi. Donc vraiment, c'est une super question parce que c'est presque la question du film. Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, il n'a pas mis à bas les institutions, ça n'a pas changé.
Ouais.
Il n'a pas eu d'effet électoral très fort. Donc on pourrait se dire, bon, bah voilà, à quoi ça sert? Mais en fait, ce que ça fait, c'est que, et c'est valable pour toutes les luttes, c'est que ça transforme les gens qui les font. Et ça peut donner goût de la lutte, mais ça transforme aussi la vision du monde, la vision de la trajectoire qu'on a eue. Moi, je dis souvent qu'il y a des gens qui sont passés de la colère à l'injustice ou qui sont passés de la honte à l'injustice. C'est-à-dire que les gens qui avaient honte de leur trajectoire, qui avaient l'impression de rater leur vie, d'avoir pas eu le bon taf, rater leurs études, bah en fait, là, ils ont compris que ça faisait partie d'un système qui créait de l'inégalité parce que bah, ça dépend du milieu duquel on vient. Et donc, ils ont réinscrit ça dans une trajectoire collective en disant « Ouais, mais en fait, je peux changer. » Et puis, ils ont senti qu'ils pouvaient avoir un pouvoir d'action sur le monde. Ça change ton rapport au monde complètement pour la vie. Donc, ça, c'est une réussite très forte pour une lutte sociale, parce que finalement, c'est des effets d'émancipation sur plein de trajectoires individuelles. Donc, ouais, ça ne se voit pas à l'échelle médiatique, mais en fait, ça change les millions de personnes qui y ont participé. Et ça, c'est quand même hyper important, quoi. Et c'est beau.
Quand je les écoute, je dirais plutôt que... Enfin, j'ai l'impression d'y comprendre que la réussite, elle se joue au niveau du personnel et du communautaire, plutôt qu'au résultat, en fait, au final. C'est un peu ce que j'ai l'air d'y comprendre. J'aimerais te poser une toute petite dernière question. Celle-là, par contre, elle va être très simple. C'est juste, comment est-ce qu'on peut vous suivre est-ce que vous avez des réseaux, quelque chose comme ça, pour pouvoir continuer à voir ce que vous faites?
Merci de cette question. On a un site qui s'appelle dégoutdelutte.fr,
okay.
dégoutdelutte.fr tout collé, sur lequel on met toutes les infos, toutes nos projections à venir et passer.
On a une page Facebook.
Ouais, on a une page Facebook.
Et on n'est pas très bon en com, donc ça devrait tout ce qu'on a.
C'est déjà pas mal. Ouais. Et le site est facile à trouver.
Ouais,
le
site est facile, bien référencé.
Dégoutdelutte.fr.
Ok, bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup et puis
merci
bon
vous.
Courage pour la suite. Je sais que vous passez encore c'est demain.
Ouais,
demain à Nancy.
À Nancy, il n'y a pas à Thionville aussi. Ouais,
si. Voilà. Thionville demain.
Sérieusement?
Ouais.
Incroyable. Bon, bah, merci beaucoup.
Bonne
soirée.